je pensais, qu'est-ce que c'est qui me motive d'être ici? Ou dans ma vie chrétienne, qu'est-ce que c'est qui s'est emparé de moi et qui m'a motivé d'être un auditeur, un adorateur, d'écouter? La réponse est simple. J'ai commencé d'écouter la Bible, parler à mon cœur. Et ça a fait du sens pour moi de comprendre la Bible. Donc je revenais à l'église, je comprenais, j'apprenais la Bible. Et lorsque je me suis assis, j'étais assis, l'Esprit avait un ministère auprès de moi, le Saint-Esprit me parlait, j'étais encouragé, j'avais l'espoir, l'amour. Et dans le corps, mes autres frères et sœurs aussi, on avait la même chose. On était enthousiasmés, on écoutait. On écoutait et on écoutait. J'avais quelques de très bons enseignants. Lorsque les enseignants faisaient vraiment du sens, j'étais enthousiaste à propos de ça. Je me disais, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est écrit dans la Bible, là, c'est incroyable. Maintenant, on est un long, long chemin qu'on a fait 40 années plus tard. Ici, je suis là. J'ai la même chose dans mon cœur. J'aime entendre ce que Dieu dit de sa parole. Ça, c'est une bonne époque pour nous, un bon moment. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas, dans le monde dans lequel on vit. Autre que les tensions, les craintes, les inquiétudes, les troubles, les questions. Et donc, il y a une famine, mais pas de pain. La famine de quoi? Tu te rappelles dans le livre d'Amos? Le livre d'Amos, Amos a dit, je vais envoyer une famille. Et c'est une famine, pas de pain, mais de sa parole. Les gens ne l'auront pas. J'étais dans les pays communistes, j'ai visité et j'ai habité. Sous le communisme, ce qui s'est passé, ils ont enlevé la Bible. Ils ont enlevé les pasteurs. Ils ont envoyé en Sibérie. Les églises étaient fermées complètement. Certaines étaient complètement détruites, rasées. L'église ont été complètement... Ils ont changé certaines églises dans des clubs d'amusement, ou bien des entrepôts, des bâtiments, les églises, ou bien des discothèques. J'enverrai la famine, pas de pain, mais de la parole de Dieu. C'est une malédiction sur un pays, ça. Prie, si tu retournes ça, comment je m'en sors de la drogue? La parole de Dieu. De l'incrédulité, la parole de Dieu. Comment je m'éloigne de la crainte? Comment est-ce que tu deviens comme ce que tu es aujourd'hui? C'était la présence de Dieu, la parole de Dieu. Tu peux dire ça. On peut dire ça de chacun d'entre nous ici. C'est une bonne parole, ça, ok? Vraiment, profondément, dans mon cœur, c'est vraiment, c'est formidable. Un missionnaire va et il apporte la parole de Dieu. Et on a vu ça qui s'est passé. Quoi? Ça, c'est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu plus tôt? Quoi? Ça, c'est la parole de Dieu? Vraiment? Et tu vas au lit le soir, tu te couches, tu es réveillé. J'ai dit cette histoire souvent, mais je vais la redire. Je prêchais en Russie jeudi soir et vendredi soir. Jeudi soir, on a donné un message, Dieu a donné. Vendredi soir, cet homme est venu me voir. Il a dit, tu sais pourquoi je suis revenu ce soir ici? J'ai dit, pourquoi? Je sais pas. J'étais ici hier soir. J'étais tellement enthousiasmé. Lorsque je suis allé à la maison, je pouvais pas dormir. J'étais réveillé. Je mangeais dans le frigidaire. J'essayais de retourner de dormir. Je pouvais pas dormir. J'étais tellement enthousiasmé à propos de Jésus. Tellement enthousiasmé. Je suis retourné au frigidaire. J'ai mangé plus. Le matin, ma femme était en colère parce que j'ai tout fini dans le frigidaire. J'ai tout mangé. Mais je suis revenu ce soir. Je suis tellement enthousiasmé à propos de Jésus-Christ. N'est-ce pas formidable? Incroyable. Dieu nous envoie. Dieu est avec nous. Dieu nous utilise et Dieu nous envoie. On souhaitait la bienvenue à Pasteur Gary Greenwald qui va nous parler une parole.
Merci, Pasteur.
Avant le message, on va se lever un petit peu. Ayez une bonne attitude et dites à votre voisin, j'ai une bonne attitude, louez le Seigneur. Vous avez une bonne attitude, donc on se réjouit un petit peu dans cette attitude. Louez le Seigneur, exprimez ça à votre voisin. Donc c'est dimanche 1er novembre 2020 à Baltimore. Le prédicateur est Pasteur Schaller. Les mots que vous avez entendus avant, c'était une introduction. Il va maintenant prêcher le message. Êtes-vous réveillé? Ça va bien tout ça? On combat le bon combat. Alléluia. Asseyez-vous. Premier Timothée chapitre 6. On va parler à votre cœur aujourd'hui des Écritures. 1 Timothée chapitre 6. C'est pas tout le monde qui a beaucoup de confiance dans la vie. Ça fluctue. Nous sommes avec des passions comme Élisée. Élisée était un prophète. Il était extrêmement confiant. Il avait confiance en lui-même. Extrêmement confiant en lui-même. Vraiment remué par l'esprit. Il appelle le feu du ciel. Le feu du ciel. Dieu est manifesté. Et ensuite, il commence à penser à Jézabel. Il a peur. Il est effrayé. Et il commence à s'enfuir vers le sud, loin de la reine, du territoire de la reine. En Samarie, il s'enfuit dans le sud. Il court. Il s'enfuit de Jézabel, la reine, la femme d'Ahab, le roi, c'est la reine. Il est dit que nous sommes des hommes qui ont les mêmes passions. On fluctue émotionnellement. On fluctue, on change émotionnellement. À l'époque maintenant où on a la pandémie et la situation que l'on a, il y a des gens qui vivent dans une certaine mesure de crainte. Il y a des gens qui changent d'une mauvaise façon. Il y a des gens qui parlent de leurs propres expériences dans la vie. Ils sont au rez-de-chaussée de la maison. Le monde naturel dans lequel on vit, c'est très facile de contrôler ma vie et de dominer ma vie. C'est dans le contexte, lorsque Paul a écrit à Timothée, il était concerné en tant qu'un homme de Dieu. Mais toi, ô homme de Dieu, le contexte, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'argent peut changer une personne. Beaucoup d'argent, ça peut changer un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut être changé par l'argent, par une relation avec une femme, par une crise, une tragédie. Il peut être changé par un coup de téléphone. Mais toi, ô homme de Dieu, ça c'est important. Mais toi, Timothée, homme de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un homme de Dieu? Comment il peut traiter ses émotions. Comment il peut s'en sortir avec ses émotions? Chapitre 6, verset 11. Mais toi, ô homme de Dieu, vous voyez le contexte donc, au verset 9, 1 Timothée 6. Les richesses, ils vont tomber dans les tentations, ça va être un piège, et dans beaucoup de choses folles, mais, et des convoitises de la jeunesse. Mais toi, homme de Dieu, ça ne se passera pas envers toi. Verset 10. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout mal. Ceux qui ont convoité après cela, ils ont erré de la foi, ils se sont égarés de la foi. Combien de gens riches ont une vie triste? Parce que les problèmes que cette richesse va produire dans la vie. Mais toi, ô homme de Dieu, l'argent n'est pas mon point ici. Mais combien on a besoin d'aide au verset 11. Enfuis-toi de ces choses-là. Fuis ces choses-là. Fuis. Pars, va-t'en. Éloigne-toi de ça. Éloigne-toi. Enlève-toi l'électricité qui est dangereuse. Dans le zoo, il y a un lion dans la cage. Et l'enfant qui s'éloigne, qui s'en va, il s'enfuit de là. Enfuis-toi. Maladie. D'une mauvaise situation. Un mauvais groupe de gens, peut-être. Des mauvaises gens. Enfuis-toi. T'es-tu jamais enfui de quelqu'un et tu t'es enfui? Peut-être un homme peut dire, je me suis enfui d'une femme. J'ai couru. Je suis parti de la présence d'une femme. Une femme peut s'enfuir d'un homme. Elle peut s'en aller. Tu t'enfuis de quoi? Là, c'est fait partie de la vie de s'enfuir. On va pas juste là ou là. Mais on marche avec sagesse. Marcher avec circonspection. Ce mot, c'est un mot, ça c'est akros. Ça vient de la racine du grec acrobate. Précision. Précision. Akros, acrobate. C'est une personne qui a cette balance. On marche de cette façon-là. Non pas de façon sans souci, mais avec sagesse. On marche avec sagesse. Verset 12. Verset 12. Verset 11. Verset 11. Enfuis-toi de ces choses-là et suis la justice. Va après la justice. C'est le mot par l'apôtre Paul qu'il a écrit. Souvent, Paul a une liste. Une liste de mots de l'apôtre Paul. Un mot n'est pas suffisant parfois. Il a une liste de mots. Chaque mot est différent d'un autre mot. Il fait son point. C'est un grand enseignement ici. Verset 11. Suis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat, le bon combat de la foi. Beaucoup d'entre nous, on connaît cette liste. Enfuis-toi, suis et combat. En anglais, c'est trois mots avec une lettre F qui commence chaque mot. Flee, follow, fight. En français, c'est enfuis-toi. Suis et combat. Donc il y a un mot dans la Bible anglaise, la King James, Roi Jacques, le mot confession, une confession. Paul dit à Timothée, tu es appelé de faire une confession devant beaucoup de témoins. Il me vient à la pensée, hier soir, ma femme et moi, on est allé dans une petite fête de Halloween, dans le voisinage, à la maison de mes enfants. Il y avait un cul-de-sac. Il y avait une table avec du cidre chaud, du chocolat chaud. Il y avait un petit puits avec des feux, des gens avec costumes qui marchaient, avec des familles et des petits-enfants, des gens qui marchaient. J'ai commencé une conversation avec un voisin. Il était disponible pour parler. On a eu une conversation intéressante. Son idée, ses idées étaient tellement différentes des miennes. Donc, j'avais un but, je voulais pas prêcher, je suis un prédicateur, je dois faire ça. Non. Non, je veux pas juste dire toutes choses que je connais et d'être cette façon avec lui. Je voulais entendre ce qu'il avait à dire et parler avec lui. Donc, on a fait cela. Je pensais combien de gens, beaucoup, beaucoup de gens, cherchent, mais beaucoup de gens ont besoin de ce que l'on a. Ils ont besoin que nous ayons une bonne confession, un bon témoignage, ou quelque chose à dire, une parole en saison, une parole de vie. Dans ma conversation, je savais, je ne pouvais pas parler de ses vues. Il parlait d'une pieuvre, l'octopus. Il parlait de choses un peu bizarres, étranges. J'essayais de comprendre, mais j'étais pas trop intéressé. Il parlait des poissons, la vie. Une pieuvre. Est-ce que tu crois en Christ? Christ est la réponse. On a tous nos idées. Si j'ai 100 personnes, j'ai 100 idées. Et vous en avez une, vous. Vous avez votre idée. Steve, c'était son nom. Moi, j'ai mon idée. Mais qui sait? Qui sait? Qui connaît? Jésus, lui, connaît. Il est ressuscité de mort. Est-ce que Jésus était ressuscité des morts? Il n'était pas ressuscité des morts. S'il n'était pas ressuscité, donc ça n'a aucune importance. Mais s'il était ressuscité, tout ce qu'il a dit et qui il est, qu'il est le Messie, donc on parlait. Est-ce qu'il est ressuscité des morts ou pas? Est-il ressuscité des morts ou pas? Ça, c'est la question. Non seulement lorsque tu parles à quelqu'un dans la rue ou le voisin, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Mais lorsque tu es à la maison, tout seul, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Lorsque les choses vont mal à l'extérieur, qu'est-ce que je dis à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Ça, c'est le texte ici. Mais toi, Timothée, homme de Dieu, tu dois fuir certaines choses. Tu dois suivre d'autres choses afin que tu combats le bon combat de la foi. C'est ce qu'il est écrit ici. Ensuite, tu as une bonne confession. Il compare cela à Jésus devant Ponce Pilate. Verset 13. Je te charge à la vue de Dieu qui vivifie toutes choses et devant Christ Jésus. Je te rends responsable. Ça signifie, d'une autre façon de dire, c'est Timothée, je suis sérieux. Je te parle. Dans la présence de Dieu, je te remets des choses et tu dois m'entendre. Tu dois m'écouter. Je te dis, tu dois avoir une bonne confession. Dans la présence de beaucoup de témoins ici. Christ a été ressuscité. Verset 13. Je te rends responsable à la vue de Dieu qui vivifie toutes choses. Et devant Christ Jésus, qui, devant Ponce Pilate, a témoigné d'une bonne confession. Pourquoi est-ce qu'il amène Jésus-Christ et Ponce Pilate là, dans la situation? Pourquoi il parle de Ponce Pilate et de Jésus, Paul? Lorsque Jésus était devant Ponce Pilate, peut-être c'était un de ses moments les plus faibles. C'était lorsque le monde crie « Crucifie-le ». Et lorsque Jésus aurait pu sentir et expérimenter un point très bas, il aurait pu dire « Je suis une victime, c'est fini, il va me crucifier. Il a la puissance au-dessus de moi. » Pilate lui a dit « Ne sais-tu pas que j'ai la puissance de te crucifier, j'ai le pouvoir de te crucifier ou pas ?» Jésus lui dit « Tu n'as aucune puissance, aucun pouvoir sur moi, excepté ce qui t'a été donné par mon Père au-dessus de nous. » Pilate, il recule, il a, oh, il est étonné. Donc, il essaie de, il ne pouvait pas s'enlever là. La signification de cela, c'est que Jésus, lorsqu'il est sous le stress, beaucoup de pression, il a à l'intérieur de lui-même, dans son cœur, ce que vous et moi nous avons, dans notre cœur et dans nos pensées. Ce que vous et moi nous sommes enseignés, ces choses-là, dans cette période de temps dans l'histoire. On est enseigné de vivre et de marcher avec Dieu. On a été enseigné d'avoir une bonne confession, d'embrasser la doctrine et la vie de Christ qui est dans notre esprit. D'être relié à lui, de l'adorer, de le connaître et d'avoir une bonne confession dans la présence de Pilate. Tu peux dire ça de cette façon-là. Jésus, il se tient debout devant lui. Évidemment, par l'apparence, c'est une mauvaise journée. Mais à l'intérieur, qu'est-ce que Jésus connaît? On pourrait dire ça de cette façon. Pilate, apparemment, tu es responsable. C'est toi qui es le dirigeant. Apparemment, il semblerait que je vais mourir, moi. Et je vais mourir. Mais c'est bien plus grand que ce que tu penses. Je vais mourir pour les péchés du monde entier. Tu vas m'enterrer. Et tu penses que c'est la fin? Ce n'est pas. 3 jours plus tard, je vais être ressuscité des morts. Et je vais monter au ciel. Ce n'est pas ce que tu penses que c'est. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie. Tous d'entre nous aujourd'hui, toutes choses que l'on regarde aujourd'hui, tout ce que l'on regarde, pour être honnête et franc, je me sens un petit peu que toutes les choses négatives et les choses extérieures, souvent ça pénètre sous la peau du chrétien, ça rentre en nous. Et le chrétien n'a pas de message. Et on échoue. Comme tout le monde, tous les autres s'échouent. On est inquiété à propos des élections. On s'inquiète du corona, de sa famille, de notre travail. On comprend tout ça, chacun d'entre nous. Tout ça, on comprend. Personne n'est différent de cette façon-là. Mais il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose que Dieu veut que l'on comprenne. Voici la deuxième partie ici. La vie intérieure de Deutéronome chapitre 1. À Moïse, il va retourner un scénario semblable. Voilà, il dessine la carte d'Europe sur le tableau dans son iPad. La Méditerranée, le bassin méditerranéen, l'Espagne, la France, l'Italie, la Turquie et l'Afrique du Nord, le bassin méditerranéen, la mer de Galilée, la rivière Jourdain là-bas, l'Égypte, Israël, Vous me suivez? Il a dessiné l'Égypte. Il y a trois endroits dans votre Bible que vous devez être familier pour notre test de géographie et de comprendre ce que Dieu a fait avec le peuple juif. Parce que cette petite carte-là a quelque chose à voir avec ce comment votre vie se passe. Votre vie et ma vie a commencé en Égypte. Pas littéralement, mais de façon figurative, nous étions esclaves. Nous étions pire que ça, sans alliance, sans promesse. Éphésiens 2:12. Sans Dieu. On était sans Dieu. On était esclaves à Pharaon, le roi, le Dieu de ce monde. C'est une métaphore pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Exode, chapitre 5, verset 2. Qui est le Seigneur que je vais lui obéir? Je ne connais pas le Seigneur. Bien sûr, Pharaon, tu ne connais pas le Seigneur, c'est sûr. Ton royaume, ce n'est pas à propos de Dieu. C'est tes villes, tes pyramides, ton or, toutes tes... Comment tu vas être enterré avec les grandeurs, l'adoration, tes dieux, les veaux d'or. C'est à propos, c'est le monde, c'est ça, avec le diable. On était esclaves de ça. On n'adorait pas Dieu. On n'avait pas l'esprit de Dieu. On n'avait pas les promesses de Dieu. On était sans Dieu. On était en Égypte perdu. Dieu nous a sauvés. Il nous a donné le sang de l'agneau sur le linteau de la porte. On se tenait debout avec nos vêtements habillés. On mange l'agneau. On est prêt de partir. Prêt de quitter l'Égypte cette nuit-là. La nation entière d'Israël qui a mangé l'agneau qui était rôti. Pas de pain. Pas de pain avec de la levure. Du pain sans levure. On n'a pas le temps que le pain se lève avec la pâte, la levure. On va partir, on s'en va d'Égypte. Dieu va nous faire sortir. On est sorti, on est parti, on a traversé la mer Rouge. Ensuite, on est allé dans le désert. Dans le désert, on a vécu, on se plaignait, on vivait dans l'incrédulité, dans la crainte. On va voir ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 1. Ça commence au verset 22. Ils ne sont pas allés à la terre promise au verset 26. Ils se sont rebellés contre le commandement du Seigneur, l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont rebellés lorsqu'ils étaient dans le désert. La géographie, ça se passe comme ça. Ils ont traversé là. Ils sont allés pendant 40 jours avec les 12 espions. Ils sont allés espionner, ils sont revenus et ils ont dit on ne peut pas le faire. Ils sont retournés et pendant 38 années en plus, entre 38 années et 40 ans, ils étaient dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enseigné dans leur tente. C'est comme vous avec votre femme à la maison. Tu parles dans la chambre. Tu parles dans la chambre. Ta femme et tes enfants, tu parles dans la cuisine, dans la salle à manger. Dans leur tente, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 27? Ils ont murmuré. Vous avez murmuré dans vos tentes. Et vous avez dit, parce que le Seigneur nous a détestés, nous a haïs, et nous a amenés du pays d'Égypte. Il nous a fait sortir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu sors de ta tente. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte parce qu'il nous aime. Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Tu vas dans la tente, maintenant ceux qui croient vraiment. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte parce qu'il nous haït. Il nous déteste. Il n'y a pas assez de tombes en Égypte. Il nous a amenés dans le désert pour nous tuer. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte pour mourir. Hors de l'Égypte pour mourir dans le désert. Ils sont allés, ils sont passés de la foi à l'incrédulité. Ils ont changé. Pourquoi? C'est ce qui pourrait se passer envers Timothée. Regarde. Pourquoi? Ça se passe comme ça. Ça se passe. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de passion. La confiance. Élisée, il appelle le feu du ciel. Maintenant, il s'enfuit de Jézabel. Il s'échappe. Ça s'est passé, je ne sais pas. Timothée, tu es l'homme de Dieu. Mais apprends à fuir certaines choses. Suis d'autres choses et combat le bon combat de la foi. On a besoin de toi. On a besoin que tu combattes le bon combat. J'ai remarqué que dans ma famille, moi et ma femme, on a une communion incroyable. Mais aussi, D'autres familles, peut-être, ils ont des problèmes à l'extérieur, en public, ça va, tout paraît bien. Mais à l'intérieur de la maison, il y a quelque chose de différent. Dans leur cœur, ils ont d'autres sentiments. Et peut-être, ils disent dans la maison. Peut-être, ils sont inquiets. Et l'inquiétude et les soucis dans leur famille... Ça pourrait se passer. Il parle de ces choses-là. Ça, c'est le message pour aujourd'hui. Je peux. Dans le psaume 16, David dit, j'ai toujours mis le Seigneur devant moi. Attends-toi au Seigneur. Sois tranquille et sache. Ésaïe 26, verset 3. Tu vas le garder dans une paix parfaite, celui qui a sa pensée gardée sur toi. Médite-le et relis-toi à lui et dis-lui dans ton cœur, Éphésiens chapitre 5. Parle la vérité dans le cœur. Psaume 51, verset 6. Dieu demande que la vérité soit dans les parties intérieures. C'est comme s'il y a un parallèle avec Sarah et Abraham. Abraham, il est là, il parle au Seigneur. Et les anges disent, le Seigneur dit, Sarah aura un fils. Sarah, dans la tente, a ri. L'ange a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Elle a dit, je n'ai pas ri. Oui, tu as ri. Pourquoi est-ce que tu as rigolé? Tu as ri d'incrédulité à l'intérieur de la tente dans ton cœur. Quelque chose que Dieu, merci Dieu que tu vas chercher notre cœur et tu vas savoir ce qui est là. Et toi, tu veux m'aider là, dans l'attente, tu veux nous aider à l'intérieur, dans mon cœur, avec ce que je crois. Ça se passera envers vous que tu vas aimer ton Église. Ça va grandir en toi, tu vas aimer ton Église. Ça grandit dans ton cœur. Ça se passe, tu aimes la Bible. Ça grandit dans ton cœur. Tu aimes la Bible, tu aimes la foi, tu aimes le peuple de Dieu. Écoutez, comme j'ai dit, hier soir j'étais dans la rue avec des non-croyants. Mais d'une certaine façon, j'étais content d'être là et je me soucie d'eux, bien sûr. J'ai prié pour ce monsieur ce matin aussi parce qu'il est tellement loin. Mais moi aussi, j'étais loin. J'étais très loin aussi. Je pensais jamais que j'aurais pu devenir être un croyant. Moi, j'étais comme ça. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, cet homme, sauve-le au nom de Jésus. Je peux ridiculiser les gens, je peux les juger dans mon cœur. Je peux être cynique dans mon cœur. Par rapport à notre pays, je peux dire, je peux être en colère, je peux être cynique, toutes ces choses-là, on les comprend, mais ça fait partie de la vie. Ce n'est pas complètement mal ou mauvais. J'ai besoin de procès, de ce qu'il y a dans mon cœur, de vérifier ce qu'il y a dans mon cœur. Lorsque Jésus vient dans ma tente, lorsque je murmure, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il nous a pas laissé tranquilles en Égypte? Pourquoi est-ce qu'il nous a fait sortir de l'Égypte? Parce qu'il nous déteste? J'ai entendu ça. J'ai entendu. Et d'autres choses terribles au travers des années. J'ai entendu des croyants parler de façon mauvaise à propos des choses de Dieu et l'œuvre de Dieu. C'est ce que Paul dit à Timothée. Mais toi, ô homme de Dieu, tu es capable? As-tu lu ta Bible? Prie. T'es-tu humilié toi-même devant Dieu et dis, Seigneur, dirige-nous dans ces moments, ces temps importants. Amène le message dans mon cœur afin que l'on puisse partager avec un incrédule, un non-croyant. J'ai beaucoup d'amis qui sont croyants, mais il y a aussi beaucoup d'incrédules, des non-croyants qui peuvent devenir. J'ai pas beaucoup d'amis comme ça. Mais vous, ici, vous avez beaucoup peut-être des amis qui sont incroyants. En Corinthiens chapitre 5, des gens avec qui vous travaillez, des gens que vous connaissez. Peut-être vous êtes le seul croyant que eux, ils connaissent. Le seul qu'ils ont le contact avec un croyant peut-être. Et ça, ô homme de Dieu, ô femme de Dieu, fuis certaines choses, suis d'autres choses et combat le bon combat de la foi à l'intérieur, dans la tente. Au lieu de dire, ça va bien, je suis bon, j'ai la joie. Le monde là-bas, c'est des troubles dans le monde. Mais moi, j'ai une promesse, j'ai une parole, j'ai l'esprit, j'ai le Saint-Esprit. J'ai une attitude. Tu marches, tu vas dire bonjour à ton voisin. Tu as besoin de quelque chose? Comment? Tout va bien? Dieu te bénit. Comment ça va? Bien, merci. Tout va, ça va. Dieu est avec nous. On a un témoignage, quelque chose. Et bien sûr, c'est certaine façon que s'exprime. Il y a d'autres choses aussi, d'autres façons de s'exprimer. Deux personnes ont travaillé à John Hopkins. Un est un croyant, l'autre n'est pas. Tous les deux, ils ont reçu une amende avec leur voiture. Il y en a un qui est croyant, qui est en colère, mais il s'occupe de ça avec l'esprit de façon différente. L'autre est en colère, il a eu une amende, il est très en colère, le non-croyant. Deux personnes qui travaillent et deux personnes, ils ont des oncles, ils meurent, ils ont le cancer. Un qui est, mon oncle est en train de mourir, le non-croyant, et l'autre c'est qui est croyant. Il y a deux oncles là, il y a une différence. Les deux ont des larmes, les deux sont tristes, mais il y a une différence. Parce qu'il y a quelque chose que l'on doit, dans la vie, filtrer dans notre cœur. On doit filtrer dans notre cœur les larmes de quelqu'un, mais c'est différent. Un cœur sait, mais le non-croyant ne connaît rien, il ne sait pas. Mais l'autre croyant, dans son cœur, il connaît, il a une promesse, il a un témoignage, et on a une bonne confession. Dans un monde qui est en trouble, dans les problèmes. Il y a une élection mardi. Je ne sais pas qui va gagner. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais ceci. Dans ma tente, profondément dans ma tente, dans ma maison, et dans mon cœur, on parle d'une certaine façon. On parle d'une certaine façon. On a la bonne confession. Devant Ponce Pilate, on peut dire, tu sais, Pilate, apparemment c'est mal pour moi. Il semblerait que toi, tu es responsable, tu es le dirigeant, mais tu n'es pas responsable vraiment. Il y a quelque chose qui se passe qui est plus grand que les États-Unis d'Amérique. plus grand que les gens qui sont mauvais, méchants. C'est plus grand que les choses méchantes, démoniaques, les meurtriers, ceux qui sont séduits. C'est plus grand que les personnalités ou les puissances de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta pensée? C'est très, très important. Et si c'est comme ça, Jésus l'a dit. Je t'ai dirigé au travers, dans le désert, afin que tu apprennes. Je vais t'humilier et je vais me montrer moi-même à toi. Je vais te montrer que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Je t'ai dirigé dans le désert où il n'y avait aucune nourriture, afin que tu puisses apprendre que moi je vais te donner la nourriture du ciel. Je t'ai mis devant Pilate afin que tu apprennes que je suis avec toi, même dans les heures les plus ténébreuses. Je vais mettre dans ton cœur, je t'ai donné l'amour, je t'ai enseigné la foi, je t'enseigne comment vivre. On doit apprendre comment vivre. Tu penses que cette année a été un problème? Peut-être que ça n'a rien à voir avec le futur. On pourrait avoir peut-être plus de problèmes dans le futur. Peut-être ce n'est rien. Le plus grand investissement dans notre temps, notre foi et dans notre cœur, c'est de savoir ce que Dieu nous dit de ce livre-là. On ne l'a pas suivi, lui, en vain. Alléluia. Écoutez ce qu'il a à dire, ce n'est pas en vain. Cette bonne chose ne sera pas enlevée de nous. Priez avec moi, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs envers toi. On prie pour notre pays, pour nos dirigeants. Ce qui se passe, ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui suivent, et les mois qui suivent et les années. Merci, Seigneur. Peut-être quelqu'un ici n'a pas commencé sa vie chrétienne ici. Ils n'ont pas mis leur confiance en Christ. Faites ça aujourd'hui.
Mettez votre confiance en Christ.
Par son sang, tes péchés sont payés. Par ta foi, tu lui fais confiance. Et l'Esprit devient ton enseignant, ton conforteur. Il te dirige dans toute la vérité. Par la foi en lui, tes prières seront entendues et répondues. Par ta confiance en lui, ta vie change de grâce en grâce et de gloire en gloire. Et de foi en foi. Commence ta nouvelle vie par une nouvelle naissance en faisant confiance et en croyant en Jésus-Christ. Aujourd'hui. Amen.